Good Morning Business, le grand débat.
Le grand débat ce matin avec Wilfried Galland, directeur stratégique chez Montpensier Finance, Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, et Jean-Philippe Cartier, président de H8 Invest. On s'en est toujours pas remis de l'interview de Thierry Breton. C'est très intéressant. Mais alors à la fin, le fait de dire est-ce qu'il y a distorsion de concurrence en Europe et comment on fait pour rétablir l'équilibre avec les Allemands qui dépensent 200 milliards et les petits pays comme nous qui n'avons pas les moyens. Thierry Breton nous dit, faites pareil, endettez-vous et soutenez les entreprises. Wilfried Galland, je caricature ou pas ?
Non, pas tout à fait. En fait, c'est le principe de la subsidiarité poussée à l'extrême. Hein. Ouais. Effectivement, on sait, puisque Thierry Breton n'arrête pas de nous ramener en général au texte européen, c'est son grand mantra en général, en disant, mais regardez les textes, regardez la loi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, dans les textes européens, il y a la subsidiarité, c'est-à-dire effectivement le fait que les États doivent se saisir de sujets qui n'ont pas vocation à être saisi au niveau global. Et là, il pousse le bouchon au maximum, c'est-à-dire en disant nous avons un certain nombre d'objectifs. Après, c'est aux États de vérifier comment est-ce qu'ils vont atteindre les objectifs. Et puis moi, je serai contrôleur. C'est-à-dire que moi, je vais mettre dans la feuille de route des points d'étape pour vérifier que tout le monde fait son travail. Et puis, si tout le monde ne fait pas son travail, soit on mettra des amendes, c'est sous-entendu dans son discours, soit effectivement, on fera des choses supplémentaires. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que par rapport aux inquiétudes sur le cavalier seul allemand, à la fois sur ce sujet, à la fois sur les relations avec la Chine. On a quand même beaucoup d'inquiétudes sur justement le fait que l'Allemagne devient finalement un point faible, un maillon faible en Europe, même si c'est plus compliqué que ça, mais il y a quand même des inquiétudes. En fait, il botte complètement en touche sur ce sujet-là, en disant finalement, il n'y a pas de sujet, chaque État va se débrouiller avec son propre réseau, et je serai là en fait pour ramasser les copies à la fin.
Il n'y a pas de sujet, vous faites pareil, endettez-vous même niveau. Je croyais qu'à un moment donné, on ne pouvait pas s'endetter jusqu'au ciel. Ça me paraît, Éric Delannoy, à un moment donné, on joue quand même notre crédibilité, non, sur les marchés financiers.
C'est un comportement qui fait plus penser à un syndic de copropriété qu'à une véritable volonté de construire l'Europe, quoi. Donc, je suis assez d'accord sur le fait que c'est
de propriété ou de liquidation.
On est assez d'accord. Le point, c'est que tout le monde en Europe n'a pas la même capacité d'endettement, c'est évident. Donc, quand il dit ça, en fait, il dit.
Mais il veut mutualiser les taux, tout le monde au même taux,
non,
il a dit.
Ça, c'est pas possible. Je veux dire, mutualiser les taux, ça n'a juste aucun sens, même si l'euro est là pour égaliser un petit peu les sujets et que la BCE s'est donné comme rôle de limiter les spreads entre les pays, on voit bien que ce qui se passe entre les pays du Nord et les pays du Sud reste et restera comme étant un écart de fait. Il faut simplement mettre en place des politiques économiques qui les égalisent, mais il est évident que les pays n'ont pas la même capacité d'endettement les uns par rapport aux autres.
Arnaud Marion.
Je crois qu'avec le conflit ukrainien, on a une cristallisation finalement de ce qui était sous-jacent et on voit effectivement l'Allemagne qui est devenue ce maillon faible pris en étau entre les États-Unis qui assuraient sa défense, or il faut qu'ils interviennent maintenant, il faut qu'ils investissent dans leur défense, la Chine qui investit chez eux et chez qui ils vendent, et la Russie bien évidemment qui fournissait l'énergie, le gaz avec la remise en cause complète de cette stratégie énergétique. Donc du coup, on voit bien que tout le monde va dans tous les sens, personne veut y aller de façon groupée au seul moment où il faudrait y aller de façon groupée. D'abord parce que l'Europe, c'est quand même un immense marché pertinent qui pèse énormément, plus que les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Mais effectivement, si on va là-dedans, ça pose un problème. Et alors Thierry Breton, effectivement, là, l'interview de ce matin était quand même assez surréaliste sur un certain nombre de sujets. Il s'exprimait dans l'IB ce week-end et je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'il parlait de la dette, par exemple, de l'Allemagne par rapport à sa stratégie sur les émissions de CO2, de la dette de l'Allemagne également par rapport à sa défense qu'il n'avait pas assuré jusqu'à présent, en disant, mais si vous rétablissiez ce qu'ils auraient dû investir au cours de ces dernières années, au lieu d'avoir 46 points d'écart d'endettement sur le PIB, vous n'en auriez plus que 18. Et je trouve que ça, c'est la bonne approche du sujet.
Jean-Philippe Cartier, Bruno Le Maire, ce matin, demande à l'Europe, justement, de réagir face au dumping américain. Est-ce que vous avez été convaincu par la réponse de Thierry Breton ?
Écoutez, de ce que j'entends, je n'ai pas entendu la réponse de Thierry Breton, mais j'ai un peu l'impression qu'il a un peu répondu quelque chose d'assez générique, parce que je pense qu'on est à une limite d'un système. Parce que Arnaud disait justement, je crois que la guerre en Ukraine, elle a cristallisé pas mal de choses, elle a permis de comprendre que c'était un peu plus chacun pour soi au niveau de l'Europe. Si on vient de découvrir que les États-Unis étaient protectionnistes et que les Chinois nous feraient pas de cadeaux, je pense pas.
On vient de le découvrir. C'est ce que dit Bruno Le Maire dans Les Échos ce matin, il dit qu'il faut arrêter d'être un peu bénévole.
Nous, on pense que tout va bien en Europe et que tout le monde s'entend bien. disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est une situation qui peut continuer comme ça? Je ne crois pas. Je pense que l'Allemagne, avec les 100 milliards qu'elle a mis de côté, les 200 milliards sur l'énergie, elle a clairement posé les bases d'une manière de gérer à sa manière. Et je pense que tout le monde doit revenir. Et je pense que la France doit en profiter pour réfléchir et raisonner peut-être différemment. Alors,
Mais est-ce qu'on a les moyens de cette ambition-là tout seul?
Je ne sais pas si on a les moyens, mais on a créé l'Europe pour ça. On se rend compte qu'il y a quand même une limite au système. Et je pense, je vous donne juste un exemple sur la relocalisation, dont moi je parle pas mal, qui est un sujet clé. Je pense que la France aurait les moyens d'agir sur un certain nombre de choses. Il y a des produits qui s'appellent Origine France Garantie, qui pourraient être, entre guillemets, aussi subventionnés, moyennant une TVA réduite, moyennant une aide aux entreprises qui font plus de 50% de leurs produits en France. Il y a pas mal de choses. C'est peut-être le moment de se poser des questions.
Ouais, mais est-ce que Cerisno Alternative, est-ce que ce que propose Jean-Philippe, c'est presque un discours souverainiste de d'indépendance et de relocalisation? Est-ce qu'on peut vraiment...
Ah, les Américains, je pense pas...
Non, mais ils sont plus gros.
Bah, je sais bien.
Que la France. L'idée, c'était quand même d'avoir un continent comme l'Europe qui était capable de faire, à l'échelle d'un continent, ce que font les Américains. Mais...
Toute ambiguïté européenne, c'est effectivement ce qui vient d'être souligné. C'est-à-dire que on souligne le fait qu'on a besoin de moyens financiers et qu'on a besoin de les mutualiser pour les mettre au bon endroit. Mais sauf qu'au moment où on discute de la mutualisation, sauf dans des cas très exceptionnels comme le Covid, en fait, à un moment, ça bloque. Et on voit que là, la possibilité d'avoir de nouveau de la mutualisation des dettes pour faire face à ces impératifs de décarbonation, ça bloque au niveau allemand. Les Allemands, clairement, nous disent, utiliser les fonds qui existent, il n'est pas question de se réendetter. Or, l'objectif, à un moment donné, de l'Union européenne, c'est de devenir une puissance financière pour obtenir cette espèce de statut qui permettrait effectivement de s'endetter de façon collective et après de redistribuer pour faire une véritable union monétaire, une union de transfert. Mais on s'arrête toujours à la dernière limite.
Oui, sauf que la crise énergétique...
Jean-Philippe Cartier.
Pardonnez-moi. Sauf que la crise énergétique recrée des divergences fortes.
Bien sûr.
Et chacun doit gérer son problème du mieux qu'il le peut.
Ce qui me fascine quand même, c'est les dogmes qui sautent. On entend quand même des chefs d'entreprise dire il faut revenir au souverainisme économique. Avant, Jean-Philippe Cartier, il y a 10 ans, vous auriez dit allez hop, c'est le libéralisme, on vous aurait traité de trotskiste. Enfin, il y a des dogmes qui sautent complètement. On change de paradigme.
D'abord, la crise...
Éric Delannoy.
La crise n'a progressé qu'à travers des crises. Enfin, pardon, l'Europe n'a progressé qu'à travers des crises. On est dans une crise. Avant qu'on progresse, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on peut faire mieux tout seul. Parce que la mutualisation est toujours vécue comme étant une perte de souveraineté. Or, on ne dit jamais assez que l'Europe, c'est quand même 22% du PIB mondial. C'est quand même la première puissance mondiale. Alors que la France, c'est pas grand-chose. L'Allemagne tout seul, c'est pas grand-chose. 60% du commerce se fait intra-européen. On n'arrête pas de nous dire, la COP27 est là pour en témoigner, qu'il faut remettre le multilatéralisme au goût du jour. On n'est pas capable de mettre en place un multilatéralisme au niveau européen. Si on n'y arrive pas, on n'y arrivera certainement pas au niveau mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de... Je parlais de syndic de copropriété tout à l'heure. Quand on arrêtera de se préoccuper de sa souveraineté nationale et qu'on la déléguera à une souveraineté supranationale, avec toutes les problématiques que ça pose de bureaucratie, on parlait tout à l'heure d'union bancaire, elle existe, cette union bancaire. Elle n'a progressé que depuis 2008. Depuis la crise de 2008, avec la création de tous les mécanismes
Mais vous y croyez que ça va marcher?
Oui, j'y crois. La preuve, c'est que l'Europe de la défense n'a jamais fait un bond aussi important depuis la guerre de l'Ukraine, par exemple. Alors que jusqu'à il y a 3 ans, nous avions 17 programmes de chars en Europe.
Heureusement qu'on a Eric pour être un peu optimiste ce matin. L'autre dossier, c'est évidemment celui de l'électrification du parc automobile européen. Là aussi, on a bien senti que Thierry Breton a défendu la décision démocratique du Parlement et du Conseil qui ont adopté la proposition de la Commission sur la fin du thermique en 2035. Enfin, il a exigé quand même une clause de revoyure en 2026. On n'avait pas l'impression avec l'or qu'il y croyait vraiment à cette fin du thermique en 2035, Winfried.
C'est-à-dire qu'en fait, la fin du thermique vient, tout le monde l'explique, avec un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'à la fois en termes d'infrastructures, à la fois en termes simplement de performance de ces technologies, qui sont aujourd'hui clairement pas au rendez-vous. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire 500 km d'autoroute d'une traite avec une voiture, à part la Mercedes EQS 450. Voilà, c'est la seule voiture en Europe. Non, mais en fait, j'ai vérifié. Non. Il n'y a aucune voiture capable de faire 500 km d'autoroute. Mm-hmm. D'une traite, je ne sais pas s'il faut faire ça, mais alors que n'importe quelle voiture thermique le fait aujourd'hui. Donc on a besoin de progresser en fait encore sur ces technologies-là. On a besoin de progresser sur les infrastructures. On a besoin aussi d'avoir un peu de visibilité sur, on parlait beaucoup de souveraineté, sur le fait que toutes les chaînes de valeur qui sont attachées à la voiture électrique sont des chaînes qui, effectivement, sont des chaînes très internationales sur lesquelles on est totalement dépendant du reste du monde. Oui. Est-ce qu'on veut continuer à être comme ça ? L'Europe s'est bâtie comme étant une courroie de transmission. En fait, comme étant une entité ouverte, courroie de transmission entre les différentes zones géographiques. Changer tout ça, c'est énormément de travail, et 2035, ça me paraît très court.
Arnaud Marion, vous qui gérez les crises, là franchement, vous êtes constructeur automobile ce matin, on vous dit le thermique c'est terminé, mais par contre ça serait bien de continuer à investir. Vous faites quoi ?
Non mais là, on est en train de créer la crise, c'est-à-dire qu'on a un marché sur lequel on est plutôt fort, parce qu'on est historiquement fort, il y a une histoire de l'automobile avec l'Europe, avec la France notamment, et tout d'un coup on nous dit, vous devez abandonner là où vous avez de la valeur, là où vous avez des chaînes de valeur pour aller sur un marché où la chaîne de valeur, elle est complètement asiatique, tant d'ailleurs sur les batteries que sur le lithium ou ce genre de choses. Là, on se rend compte qu'il va falloir 15 fois plus de lithium. On est en train de se recréer une immense dépendance au moment où on a les grands débats sur
les souveraineté. Et l'Europe, après avoir voté cet arrêt du thermique, est en train de s'en rendre compte.
Oui, voilà. Et tout d'un coup, on dit non, on va faire une clause de revoyure. Alors là, Thierry Breton a parlé de la norme Euro 7. Mais qui va investir dans une norme thermique puisqu'on a dit arrêtez le thermique.
Personne. Il y a quand même un point. Enfin, je vous trouve un petit peu dur avec Thierry Breton. C'est que la communication est extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'en gros, on prend une décision au niveau européen qui est quand même très structurante et derrière, le commissaire la remet en cause ou en tout cas fait mine de la remettre en cause. Ouais. Néanmoins, il y a quand même une forme de pragmatisme dans ce qui vient d'être dit. Carlos Tavares ne dit pas autre chose. Enfin, aujourd'hui, le choix de la fin du thermique et de tout électrique, c'est un choix politique. Ce n'est pas un choix industriel. Et à ce titre-là, ça met à mal toute une chaîne de gens qui ne s'y sont préparés que petit à petit. Sachant que par ailleurs, plus d'un tiers, voire la moitié du marché restera thermique dans les 40 prochaines années. Donc ça veut dire que investir sur l'électrification pure et dure pour les constructeurs, ça n'a juste aucun sens. Parce que le parc va être en rotation, parce que les marchés externes la transition écologique se fera de manière beaucoup plus lente dans les autres marchés qu'en Europe. Donc il faut garder les deux chaînes. Et je pense que c'était une erreur, de mon point de vue, d'aller vers un choix technologique plus que d'aller vers des objectifs d'émission, où les industriels auraient pu choisir eux-mêmes les choix technologiques pour atteindre ces objectifs d'émission.
Philippe.
Non, je suis assez d'accord, mais c'est surtout pour donner des éléments chiffrés, on parlait des bornes, il y en a 350 000, et il en faut 7 millions. Ouais. C'est-à-dire que si juste on réfléchit en le commissaire européen, il met juste un peu la pédale de France, juste pour pas. Je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais encore
une fois. Il a dit qu'il fallait passer 350 000 à 7 millions.
Je pense qu'il a plutôt raison. Enfin, c'est peut-être. Vu de l'entrepreneur que je suis, c'est peut-être un des plus gros défis industriels. Le passage, l'arrêt du thermique, comme tu expliques très justement, en 2050, il y aura un tiers des voitures qui seront encore thermiques. Comment ça va se passer ? En termes d'emploi, c'est un enjeu colossal. En termes de matières premières, c'est un enjeu colossal. On oublie aussi qu'on est en pleine crise énergétique, donc c'est d'autant plus paradoxal d'en parler en ce moment. On imagine que les voitures consomment 15% de plus d'électricité que le besoin global qu'on couvre aujourd'hui dans le besoin européen. Donc c'est un enjeu très complexe, et je pense que Breton, là-dessus, il a plutôt raison de mettre un peu la pédale de frein.
Wilfried ?
En fait, ce qui est très étrange et à la fois intéressant, c'est que Thierry Breton, il le dit, il ne fait que redire et remettre en lumière ce qu'il y a déjà dans les textes de loi. Il dit toujours, en fait, la clause de revoyure, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle est...
Il y a une négociation sur la date.
Il y a une négociation, et donc le politique est conscient qu'en fait, il faut travailler sur le sujet. Le problème, c'est que l'ambiguïté fondamentale, c'est on en fait quoi de cette clause de revoyure ? C'est-à-dire, cette clause de revoyure, c'est fait pour repousser les délais, c'est fait pour accélérer les investissements, c'est fait pour mutualiser des choses. En fait, il y a une énorme incertitude sur ce sujet-là, et on sait que pour commencer à investir dans un certain nombre de sujets, il faut lever ces incertitudes-là. C'est-à-dire que, y compris d'ailleurs pour des sujets aussi, entre guillemets, basiques qu'un réseau de bornes, il faut avoir de la certitude sur comment est-ce que tout ceci va se financer, quelles vont être les normes, quelles vont être les normes écologiques, y compris appliquées. Aujourd'hui, c'est quand même pas très clair. Et donc Thierry Breton a raison de dire il faut se poser la question. Mais là, ce qui manque, c'est se poser la question pourquoi. Et aujourd'hui, on n'a pas la
réponse. Je crois que la clause de revoyure, elle rassure quand même. on va je pense qu'elle rassure, elle rassure les industriels, elle aura moins de pression, peut-être que l'objectif sera le minimum, mais je pense que c'est le minimum pour donner un petit peu de souplesse.
Il y a une task force là qui est réunie tous les 3 mois pour aller jusqu'en 2026.
Si on a à la fois une clause envoyeur et des task force, on est sauvé.
On est sauvé.
On est sauvé, on est sauvé.
2040.
Ouais, je suis confiant là.
On en parlera évidemment avec Luca De Meo, qui est notre invité mercredi matin et qui lui est quand même très électrique et qui veut même créer une filiale dédiée à l'électrique. Peut-être qu'il va peut-être un peu trop vite, on lui posera la question. En tout cas, merci à tous les quatre.